Et c'est parti.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des oiseaux, une fontaine et un checkpoint ce samedi dans Plan Large en direct du 46e Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand avec Éric Roux, Marie-Lola Tervert et Paul Jousselin, Paul Heinz et David Frenkel et aussi Entebbin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, en direct des studios de France Bleu, Pays d'Auvergne. On les en remercie. C'est depuis sa création en 1982 le plus grand et le plus merveilleux festival de court-métrage du monde. Lieu d'expérimentation, de révélation des talents de demain, laboratoire de la création cinématographique, espace de liberté artistique, un maillon essentiel dans notre paysage culturel et nos industries créatives qui représente la recherche et développement de toute la filière cinématographique et audiovisuel. Ce n'est pas nous qui le disons, même si nous y souscrivons entièrement, c'est la fraîchement débarquée ex-ministre de la Culture Rima Abdul-Malak qui l'écrit en préambule du catalogue de cette 46e édition. Il y a eu le remaniement qu'on sait entre son impression et l'ouverture hier du festival. Un festival dont on craignait il y a 9 mois encore, suite à une baisse drastique de la subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il n'ait du mal à se tenir cette année. On est donc d'autant plus heureux à France Culture de la accompagné à nouveau et à Plan Large d'y revenir, ça faisait longtemps. Pour brosser les grandes directions et tendances de ce cru 2024, nous sommes ravis de recevoir autour de ces micros le président du festival, Éric Roux, et trois des 135 films en compétition cette année dans les trois sections principales, internationale, labo et nationale, représentés par deux cinéastes, Marie-Lola Tervert et Paul Jousselin, un artiste contemporain, Paul Heinz, et un producteur, David Frenkel. En fin d'émission, Entebbin nous plongera dans les méandres et faux-semblants du Limier de Joseph L. Mankiewicz, de retour en Copie-Neuve après une si longue absence, mais pour l'heure, petit avant-goût sonore de ce qui nous attend cette année à Clermont-Ferrand. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1, ignition.
En éclair, à coup de je ne sais quoi, toujours se reprenant, je vois se prononcer, se dérober, s'affirmer, s'assurer, s'abandonner, se reprendre, se raffermir.
Bonjour Éric Roux.
Bonjour.
Vous êtes depuis 2020 le président de l'association Sauf qui peut le court-métrage qui organise depuis ses débuts le festival de Clermont-Ferrand dont vous êtes aussi le président par voie de conséquence. Sauf qui peut le court-métrage, c'est dire si depuis ses débuts le festival avait pris une position à la fois défensive et offensive par son offre. Vous pouvez rappeler dans quelles conditions une bande d'étudiants au début des années 80 a créé ce festival ?
Il se trouve qu'en fait c'est toute première séance, j'allais à l'amphi de la fac de lettres effectivement, comme jeune étudiant. Et c'était vraiment une volonté de mettre en avant une forme de création qui commençait un petit peu à disparaître des salles. Et le but du jeu était de se dire, ben, on y va. Faut qu'on montre, en fait, cette production du cours, parce que c'est vraiment... la mécanique pour rentrer dans la production du long métrage. Au début, c'était une histoire d'étudiant, puis qui a parfaitement fonctionné. Je crois que la grande réussite, en fait, du festival de Clermont, c'est d'avoir entraîné le public et créé son public. Moi, ce qui me frappe toujours à Clermont, c'est ce côté très populaire au sens noble du terme, où le public est prêt à trépigner, applaudir, huer, siffler, rigoler, parce qu'ils sont en prise directe, en fait, avec cette création foisonnante que propose le festival. Et il y a vraiment une relation qui est touchante et énergisante entre ce public clermontois, mais qui n'est pas forcément d'ici, hein, puisque je crois qu'il y a 2/3 du public qui vient dans les salles à Clermont, qui est soit national, soit international, et ce que produit en fait une équipe qui, depuis le départ, est installée dans la ville, sur ce territoire. C'est un truc super important, hein. C'est que c'est vraiment une respiration de Clermont-Ferrand, cette production du Festival de Clermont-Ferrand. Je pense que c'est unique. C'est unique et ça produit en fait la singularité du festival.
Voilà, c'est pas un festival qui est descendu de Paris à la recherche d'une ville où s'installer. C'est aussi un travail tout au long de l'année que fait, sauf qu'il peut, le court-métrage dans tout le bassin, si j'ose dire, de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous faites pendant l'année où c'est pas le festival?
Il y a plein en dehors du festival. Il y a plein de choses de tête comme ça. Ça peut être circuit court qui sont les coups de cœur de l'équipe de Sauf qui peut et qu'on fait tourner partout. Saint-Genès-Champanel, petit village à côté de Clermont-Ferrand, Thiers, Issoire, Marseille, Lyon, on embarque comme ça un public sur ces coups de cœur émanant du festival de l'année en cours. Après, il y a un truc que je trouve formidable, c'est de l'accompagnement qui est fait auprès de réalisateurs de courts-métrages en disant, mais tiens, là peut-être qu'il y a idée de faire un long-métrage. Donc on va faire des résidences plus ou moins longue, plus ou moins nourrie, pour accompagner justement ces jeunes réalisatrices ou réalisateurs dans le développement de leur projet. Mais ça peut être aussi un travail fait auprès de lycéens, où on leur demande de faire des critiques de films, sur la forme qu'ils veulent. Hein. Ça peut être une critique... Tu as fait ça, visiblement.
dit-il à Marie-Lola Tervert, on va l'entendre dans un instant.
Et moi, je pense, juste parce que ça correspond bien, en fait, à l'esprit du festival, je vois ces classes de lycée agricole. Il y a un lycée agricole par département qui font ce travail de critique de court-métrage. Et je me dis toujours, est-ce que dans la classe là qui a fait ce boulot-là, il n'y en a pas un ou deux qui va peut-être un jour se dire, c'est chouette l'agriculture, mais ce que j'ai appris, ça peut me permettre aussi de faire du cinéma. Et ça, c'est une démarche que je trouve vraiment à la base de Sauf qui peut, le court-métrage.
Amener la culture dans les campagnes, on a l'impression d'entendre Rachida Dati, ça va lui plaire beaucoup, votre discours Éric Roux. Ça devrait plaire beaucoup à la région Rhône-Alpes aussi, qui veut réorienter, rééquilibrer les financements des métropoles vers des organismes ruraux. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier pour que au Festival de Cannes, on apprenne que la subvention était divisée par deux, ça fait quand même 110 000 euros en moins de la part de la région, soutien unanime de toute la planète cinématographique.
C'était vraiment chouette.
Encourageant pour vous. Vous avez eu des explications depuis?
Alors, notre désir le plus cher, et c'est pas des éléments de langage, c'est de dialoguer en fait avec le président de la région et la vice-présidente culture, puisque depuis cette décision, un coup de fil, 3 courriers, mais on n'a pas dialogué. Et je crois qu'il serait très important qu'on puisse parler, en se disant peut-être des choses pas agréables, mais en essayant de construire ensemble. J'imagine pas un festival comme celui de Clermont-Ferrand se passer du soutien et de l'attention, surtout, d'un conseil régional aussi important, puisque c'est la deuxième région de France en termes de budget, pour accompagner un festival qui a 11 millions de retombées économiques sur le territoire. Je pense aux 2000 lycéens qui passe dans les salles pendant le festival. Je pense, je sais pas moi, aux autres lycées, par exemple le lycée Louis Lumière de Lyon, qui vient passer plusieurs jours, les sections cinéma, au festival, pour se nourrir en fait de l'énergie qui est produite ici. Et sachant que le propre d'un festival comme celui de Clermont-Ferrand et du court-métrage, c'est d'être réellement un miroir, une résonance de ce que vit la société, de ce que vit la production cinématographique, et que ça ne peut qu'intéresser la direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors, est-ce que c'est en miroir ou en résonance que cette année particulièrement féminine, de manière très revendiquée, avec des sections spéciales, réalisatrices européennes, des figures féminines combatives et extrêmement combatives, comme on a pu en avoir un avant-goût hier soir à la soirée d'ouverture, des jurys totalement féminins pour juger de courts-métrages qui, il est vrai, en France, sont sans doute l'endroit où il y a le plus de parité entre réalisatrices et réalisateurs. Je crois que c'est 46% selon les chiffres du CNC, là où c'est plutôt 28% pour les longs-métrages. Pourquoi ce geste vraiment politiquement très affiché cette année?
Je crois que c'est pas un geste. C'est vraiment l'histoire. Le propre de Sauf qui peut, avec son festival, c'est toujours produire le discours le plus indépendant, le plus attentif, le plus militant, hein, c'est ce que j'ai dit hier soir pour l'ouverture, et que ce militantisme passe cette année par cette place accordée aux femmes dans le cinéma. Et c'est pas une posture, c'est une réalité. L'équipe de Sauf qui peut le court-métrage, on est presque à parité. Et c'est pas une mécanique de se dire, on va embaucher plutôt des filles. Non, c'est parce que c'est comme ça, et que ça traduit bien, en fait, cette mécanique qui se met en place dans notre société, d'être attentif à un discours féminin qui a droit à une place aussi importante et aussi pertinente, voire impertinente, sur ce que produit le cinéma. C'est vraiment pas une mécanique qui se met en place comme ça. L'idée d'avoir tous les pays européens cette année avec l'une des rétrospectives plutôt qu'un pays... C'est pareil, on était dans la course capitale européenne de la culture, on a loupé la marche. Mais ça traduit quand même aussi cet intérêt. Vous savez, nous on a un projet, Sauf qui peut, qui est essentiel pour nous, c'est 2028 avec la création de la Cité du Cours. Cette Cité du Cours qui sera juste le moyen de catalyser toute l'énergie du festival, non plus pendant une semaine, mais sur toute l'année. Donc les histoires que l'on porte, elles traduisent cette volonté-là, c'est tout.
On se donne rendez-vous en 2028 pour voir.
Vous passez avant.
On reviendra, mais en 2028, on ira voir comment l'a jeté le siège actuel du festival et de l'association. Sauf qu'il peut, le court-métrage aura doublé sa taille et deviendra cette cité. En tout cas, parité oblige, on commence notre petite plongée parcellaire et subjective dans la programmation de cette 46e édition avec un film co-réalisé par une femme et un homme. Mais c'est bien une femme qui en est au centre. Il y a aussi des oiseaux.
Allô?
Ah, je suis choquée, meuf, je t'aime trop, je suis choquée là, je suis en train de te parler et tout. Meuf, t'es incroyable, tu le sais que t'es incroyable comme meuf.
Comment ça, merci? Mais qui est à l'appareil?
Mais là, c'est Sarah, c'est moi, j'ai fait ta fanbase sur Twitter, meuf, je te kiffe trop, t'es un truc de ouf. Genre, tu sais pas comment, vraiment, je suis trop fan de toi, genre, j'ai pas
fâché. Allô? Vous me quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Allô?
Allô?
Trop bien, ça marche. C'est qui?
C'est Claude. Mais et vous, qui êtes-vous?
Claude, pas.
Bonjour, Marie-Lola Tervert.
Bonjour.
Bonjour Paul Jousselin.
Bonjour.
Vous êtes les réalisateurs et autrices des mystérieuses aventures de Claude Conseil en compétition nationale cette année à Clermont-Ferrand. Avant qu'on ne parle avec vous de ce drôle de film et de pourquoi une ornithologue retraitée se retrouve assaillie, comme on l'a entendu, de coups de fil dans une langue étrange, vous êtes Marie-Lola Tervert, on peut le dire, la régionale de l'étape. Vous êtes née à Clermont-Ferrand. Vous aimez, si on en croit votre biographie officielle, Jacques Demy, Éric Rohmer, qui a tourné, rappelons-le ici, Manu chez Maud, et vous aimez aussi le fromage de votre région, mais aussi son festival, j'imagine. Quel rapport vous entretenez avec le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand? Est-ce que ça a joué un rôle dans votre désir de faire du cinéma?
Bien sûr. Enfin, je pense qu'en étant clermontoise, on ne peut pas ne pas aller à ce festival. Enfin, dès les séances scolaires, quand j'étais petite, au lycée, moi j'étais en option cinéma. Enfin, on y allait tous les ans. On avait des horaires banalisés. Enfin, c'est et depuis, j'y vais tous les ans. J'en ai raté à peine une ou deux éditions. C'est extrêmement important et pas que moi. Enfin, c'est toute la ville. Mes parents. Qui ne travaillent pas du tout dans le cinéma, y aller également. Enfin, c'est un événement dans la ville juste génial, exceptionnel, et qui m'a évidemment donné des envies de cinéma, de court-métrage particulièrement. Voilà, donc je suis extrêmement fière d'être là.
Ouais, c'est une bonne façon de convaincre ses parents qu'on veut faire du cinéma, de les emmener voir des courts-métrages. Au moins, ils voient ce que c'est. Vous avez étudié le cinéma à l'Université Paris 1 et à l'ESSAV à Toulouse. Vous avez déjà réalisé un court-métrage autoproduit. C'était en 2018, Zéphyr et le roi. Mais vous exercez également comme costumière au Absolument. Cinéma. Paul Jousselin, vous êtes diplômé du département son de la Fémis, promotion 2012. Et on vous retrouve comme mixeur au générique de nombreux films. Qu'est-ce que ce film dit de la rencontre de vos deux univers professionnels? Je ne veux pas en savoir plus. Hein. Mais tout. Professionnellement, oui. La rencontre d'un mixeur et d'une costumière.
Ben, c'est plutôt une rencontre entre deux univers de cinéma, de cinématographie, je pense. Enfin, l'univers du son, évidemment, il est très important, mais ça, Paul pourra peut-être plus vous en parler. Mais c'est deux désirs de cinéma qui se rencontrent et deux univers à nous, pas forcément dans les costumes.
Oui, ça, c'est un film sur l'écoute, un film sur le son. D'ailleurs, c'est super d'entendre là à la radio l'extrait de ce film.
Rapprochez-vous un peu de votre micro, je ne vais pas le dire ça à un preneur de son, mais on vous entendra mieux si vous parlez dans le micro.
Oui, c'est ça, c'est l'idée aussi de faire un film. Qui part du son et qui part de l'écoute et voilà, entendre un extrait ici, ça fait plaisir.
C'est imparable le cinéma à la radio, hein. On voit tout de suite qui est derrière. C'est aussi un exercice de, ben précisément, il me semble, de mixage, en tout cas de composition musicale. C'est-à-dire que vous mettez à l'unisson deux univers totalement opposés, une retraitée des campagnes, une rappeuse des villes, le chant des oiseaux, les beats du R&B. D'où vient l'idée de ce film, Marie-Lola Tervert?
L'idée du film,
c'est un film qu'on a écrit pas loin d'ici. Dans Livradois-Forez en Auvergne, et c'était pendant le confinement. On se rencontrait avec Marie-Lola et on avait envie d'écrire un film à deux qui mélangerait justement nos univers de cinéma respectifs. Et c'est un peu l'histoire de la rencontre de deux univers très différents, mais c'est notre rencontre à nous aussi. Et pendant cette période un peu morose, l'envie de faire un film joyeux, doux. Un retour à la nature aussi.
Oui, je pense que Paul, parisien, découvrait, enfin, si je peux me permettre de dire ça, découvrait un peu la nature. Donc, je connais un peu, on a commencé à écouter les oiseaux. Moi, je commençais à découvrir le rap un peu que Paul me partageait. On a eu envie de se faire se rencontrer ces deux choses par un film, mais pas, enfin, d'une manière bienveillante, quoi, que ces deux choses se rencontrent vraiment et pas qu'elles s'opposent qu'elles s'acceptent les unes les autres pour donner un monde un peu utopique ou qui irait mieux, où on irait mieux. Je pense que oui, on avait envie d'aller un peu mieux à ce moment-là et voilà, je crois que c'est ça.
Oui, c'est-à-dire on peut se parler quoi, entre populations qui sont, qu'on essaye d'opposer plus ou moins artificiellement, qu'un certain populisme politique aussi, par moment, va vouloir opposer. Mais là encore, moi j'ai été très sensible à l'action de la langue. Quoi. Enfin, il y a une façon de jouer avec la langue. On vient d'entendre Catherine Salvia, la grande comédienne de la comédie française. Hein, ce langage urbain, comme on essaie de le catégoriser, qu'elle-même envisage comme un objet d'étude scientifique, c'est quelque chose de très beau, Pelouse. Hein.
Bah exactement, oui. C'est quelqu'un qui est à l'écoute du monde, c'est quelqu'un qui enregistre les oiseaux, qui essaie de comprendre leur langue. Et là, tout d'un coup, débarque une autre langue qu'elle ne connaît pas, celui des fans de Laze, une grande rappeuse. Et en fait, ce qu'on avait envie de faire, c'était, je pense que beaucoup de personnes qui se mettraient à recevoir plein d'appels comme ça, raccrocheraient, ne s'y intéresseraient pas, seraient complètement énervé. Et elle, au contraire, ça éveille son intérêt. Elle va accueillir ses messages, se renseigner sur cette nouvelle langue. Et voilà, c'est en ça que le film est bienveillant aussi.
Et puis c'est aussi un formidable documentaire animalier, puisque des oiseaux, on ne fait pas que les entendre, on les voit, mais on les voit aussi dans le plan avec les acteurs. Donc là, c'est le grand moment basinien du film. Hein. On met ensemble un animal et un être humain. Comment est-ce qu'on met en scène des oiseaux, Marie-Lola Tervert?
Il y a deux manières de mettre en scène les oiseaux dans le film. Il y a une partie qui est documentaire, où donc on met en scène les oiseaux en attendant très longtemps qu'ils arrivent sur la branche. Avec le chef opérateur, et donc dans l'attente, dans l'écoute. Et puis, y a aussi des dresseurs d'oiseaux qui font ça. Enfin voilà, les oiseaux sont des êtres très intelligents qui réagissent très bien. Enfin, finalement, voilà, c'est des contraintes, mais... Et donc nous, on avait écrit, sans se poser vraiment la question, des choses un peu magiques comme ça, et il y a des personnes qui ont rendu cette magie possible. Tristan Plot, qui est un dresseur d'oiseaux, qui sans même un seul... il parle pas, c'est juste avec des gestes, et les oiseaux lui obéissent. C'est très beau quand ça se passe sur un plateau de cinéma.
Et là où le film est totalement antispéciste, c'est que chaque oiseau est crédité au générique.
Oui.
Ouais. Je renais de mes cendres comme le phénix. Vu que la concu, c'est que je suis pénible. Sur un coup de tête, change de pays. Je suis vertébré, je suis pas féline. Si le cri des aigles m'attire, c'est que le chant des signes m'apaise. Demande à Claude conseil. Ouais. Je renais de mes cendres comme le phénix. Vu que la concu, c'est que je suis pénible. Sur un coup de tête, change de pays. Je suis vertébré, je suis pas féline. Si le cri des aigles m'attire, c'est que le chant des signes m'apaise. Demande à Claude conseil. Demande à Claude conseil. Demande à Claude conseil.
Merci Marie-Lona Tervert et Paul Jousselin. Les mystérieuses aventures de Claude Conseil featuring Catherine Salvia, Olivier Saladin, Lace et les oiseaux. C'est en compétition nationale au Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, programme F3, parce qu'il paraît que les festivaliers aiment bien noter les numéros des programmes. Prochaine projection demain matin à 11h30 et lundi à 12h30 en votre présence pour répondre aux questions du public. Vous écoutez France Culture Plan Large en direct de France Bleu Pays d'Auvergne pour la 46e édition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. On garde la même menteuse, Jeanne Sarfati, et on part à présent pour Jeddah avec d'autres drôles d'oiseaux, ou plutôt d'oiselles.
Taking mortal and pumping it into the sky. خلينا لعبكم لعبة. أي حاجة نتكلم عنها دحين, أي كلمة ممنوعة فيها أو محرمة, نشفرها بكلمة نافورة. زي أمس والله عمرت نافورة ودوختني.
باكش بسيدة عمرت.
عادي يقولون نعمر دخان. يا النوافير غالية والله صارت بعد الحرب. العيال نوفيرهم ما عاد توقف.
نوفير مطوبة.
ما عاد توجب.
ما عاد تجمل.
ما عاد تجمل.
Bonjour Paul Heinz.
Bonjour.
On est dans une voiture, on est à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans les grandes avenues fraîchement rénovées, agrandies de cette ville. Trois jeunes femmes discutent. Qu'est-ce que c'est que ce Nafoura qu'on les entend prononcer régulièrement et qui donne son titre à votre film, Paul Heinz?
Alors Nafoura, ça veut dire littéralement fontaine en arabe.
Et c'est ce qui a initié, et c'était le début de ce projet de film. C'est-à-dire que, aussi d'ailleurs, en début 2020, pendant le confinement, j'ai commencé à écrire un film qui devait être un film poème, dont le point de départ aurait été, enfin, serait l'immense fontaine de Jeddah, qui est un monument aquatique construit à même la corniche à Jeddah dans les années 80. Et
le plus grand jet d'eau du monde, c'est une grande fierté
du monument aquatique, ouais. Est considéré comme le plus grand jet d'eau du monde, en effet, oui. Et pour moi, en tout cas, dans l'écriture poétique que j'avais débuté en 2020, je m'étais dit dans ce pays que je ne connais pas, l'Arabie Saoudite, comment et un pays qui est principal. Constitué de désert, comment le contrôle de l'eau pourrait nous parler du contrôle du corps et du corps politique.
Et du corps féminin.
C'est ça, exactement, oui. Et donc, c'est ce qui a initié d'abord le film. J'avais écrit un poème de mon côté. Je voulais créer une espèce de film-poème comme ça en voix off. Et puis, petit à petit, par les rencontres, en l'occurrence, la rencontre d'Annar Salem, qui est une artiste et réalisatrice saoudienne, c'est devenu plus un film de personnages. Et du coup, quelque chose qui a évolué vers cette écriture documentaire et fictionnelle, oui.
Oui, parce que vous avez rencontré ces trois jeunes femmes qui nous donnent une image, alors pour le coup, assez inédite de l'Arabie Saoudite. Elles sont pas voilées, elles parlent très librement. Alors, comme on l'a entendu dans l'extrait ici, les mots interdits sont remplacés par Nafoura, mais enfin, on peut s'imaginer assez facilement ce qu'elles racontent. Comment vous les avez rencontrées, ces trois jeunes femmes, et comment est-ce qu'elles ont nourri précisément l'aspect... Alors, on est incapable de dire si on est dans la fiction ou si on est dans le documentaire en voyant votre film.
Je les ai rencontrées j'ai mené un casting lorsque je suis arrivé à Jeddah. Et j'ai proposé à différentes personnes, parce que aussi précédemment au départ, du coup, ce poème est devenu une écriture plus fictionnelle qui laissait la place au documentaire, où avec le co-scénariste Quentin Faucheux-Turion, on a décidé que aussi pendant tout le film, il y aurait ce jeu de la fontaine qui permettrait de poser un regard sur le pouvoir, qui est un espèce de jeu de parole, un jeu documentaire où comme vous le disiez, les protagonistes remplacent des mots tabous par le mot fontaine. Et du coup, au départ, les rencontres qu'on a fait pendant un mois étaient pas un casting classique, parce que moi, je viens plutôt d'une écriture documentaire. C'était vraiment des discussions. Qu'est-ce que c'est que ton rapport au pouvoir? Quelle est la symbolique de l'eau pour toi? Cette fontaine qui est un peu le monument de la ville, qu'est-ce qu'il t'évoque? Est-ce que tout ça pour réfléchir à aux restructurations urbaines qui avaient lieu dans la ville, où les quartiers les plus pauvres étaient en pleine démolition. C'est ce qu'on voit aussi dans le film, le quartier du sud de Jeddah. Et parler aussi de l'impossibilité pour la jeunesse saoudienne de se rencontrer dans l'espace public, parce que l'espace public est très restreint. Ce qui a donné ce film de voiture.
C'est pour ça qu'on parle dans les voitures. Ça fait beaucoup penser au cinéma iranien, de ce fait. C'est l'endroit où on se déplace, mais où en même temps on est chez soi, donc on peut parler. Et puis votre film est rythmé par des images assez stupéfiantes, subaquatiques, dont on imagine que ça pourrait être les conduits d'eau qui amènent à la fontaine. Sauf que ce que vous filmez, c'est une sorte de double de la ville, une ville submergée. Qu'est-ce que ça représente? C'est l'inconscient de la ville, c'est son refoulé.
Oui, c'est vrai que dès le départ de la construction du film, je voulais écrire ces deux trajets, le trajet des filles qui s'éloignent de la ville et qui vont vers un espace de liberté, un espace plus désertique, et le trajet de l'eau, qui serait le trajet de l'eau, le trajet imaginaire de cette fontaine, en fait, qui irait de la source imaginaire dans le désert jusqu'à la fontaine réelle qu'on voit sur la corniche. Et c'est une partie du film qui est différente des autres parce qu'elle n'est pas en prise de vue réelle. C'est une partie que j'ai réalisée en image de synthèse par de la photogrammétrie. En fait, j'ai scanné différents objets industriels et antiques dans les rues de la ville que j'ai recomposés. C'est ce soubassement de la ville qui est aussi un chemin où des paroles apparaissent, des paroles d'un inconscient des trois personnages du film, comme ça, réfléchissant ce symbole. Ouais.
Alors, je vous ai présenté tout à l'heure, en ouverture de cette émission, comme un artiste contemporain, parce que vos films sont aussi visibles au-delà de l'écran, du grand écran de Clermont-Ferrand, par exemple. Et d'ailleurs, ce film en particulier, par exemple, a été présenté il y a quelques mois en galerie, à l'agence GB, dans un dispositif. Il était entouré de miroirs. Quand vous faites un film comme ça, vous le pensez d'abord pour l'installation, d'abord pour la salle, ou les deux en même temps?
Ça dépend vraiment du travail, mais quelquefois... le plus souvent en tout cas, c'est des objets que j'utilise dans la construction même du film qui sont montrés dans l'espace d'exposition en lien avec l'image filmique. Ouais. Dans un travail que j'ai pu faire par ailleurs dans le passé qui s'appelle Character, c'était des livres qui étaient outils de discussion dans des situations documentaires et fictionnelles qui ont été montrés pour leur aspect plastique aussi. C'est souvent ça en tout cas, c'est des décors que je mets en place ou des installations. Là, en l'occurrence, pour Enafura, ce qu'il y avait à voir à JB Agency en septembre dernier, c'était des miroirs lumineux sur lesquels étaient inscrits des graffitis trouvés justement dans les quartiers en pleine destruction au sud de la ville, rejouant une écriture poétique qui était celle que j'avais développée au début du projet. Ouais.
أنا السيجارة والدنيا الغدارة ماسكاني في ايديها وعمالة تشد أنا العمارة إنها دوارة شفايفها حلوة بس بتعطل
Merci Paula Hintz. Nafura Fontaine en français, c'est dans le programme L5 de la compétition Labo. On peut le voir notamment ce soir à 19h et demain à midi. À Clermont-Ferrand, dernier film à notre riche programme Clermontois. À nouveau un road movie, enfin, quand on veut bien vous laisser rouler.
Hey, fille, taxi, fille, taxi. 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 Hey. Taxi.
Hizma.
Ayo.
Hajiz Hizma.
Ayo, Al-Hajiz. Sanna. Tout cholèche. أول إشي أنا مش الشوفير الشخصي تبعك عشان هيك تيجي تقعد قدام والتاني إشي معك هوية إسرائيلية؟
لا معيش بس معي بطاقة إقامة أوروبية
يعني معك جنسية أجنبية؟
لا إقامة
إقامة من وين؟
بولندا
تأكد إنه بدخلوك عليها؟
صراحة ما عمريش حاولت من غاد أبدا بس المفروض إن هم يمرقوني
أنا عندي طلب مهم في القدس وبديش أتعطل
خذني معك طريقة
ماشي اطلع
On est à la frontière entre la Cisjordanie et Israël. Un jeune homme tente de convaincre un chauffeur de taxi de le conduire au checkpoint de Isma dans l'espoir de pouvoir rejoindre de l'autre côté du mur de séparation sa mère. Ça va pas être simple parce qu'il n'a pas de carte d'identité israélienne, ce jeune homme, seulement une carte de séjour européenne. C'est le début d'une orange de Jaffa du cinéaste palestinien Mohamed Al-Mouhani qui n'en est pas à ses premiers pas puisque c'est le 9e court-métrage de ce réalisateur né à Gaza, qui a vécu sa jeunesse en Cisjordanie avant de partir étudier le cinéma en Pologne à la mythique école de Lodz. Alors c'est pas lui qu'on reçoit aujourd'hui, mais son producteur David Frenkel. Bonjour.
Bonjour.
On a parlé sur cette chaîne et dans cette émission de nombre de vos productions. Vous avez notamment étroitement travaillé pendant 17 ans avec Claude Lanzmann. C'est à vous qu'on doit Le Dernier des Injustes et Les Quatre Sœurs. À vous qu'on doit également Des Hommes de Lucas Bellevaux, qui nous en avait parlé dans Plan Large. Et vous éditez aussi avec votre société Cinecdoc de magnifiques livres de conversation avec des grands techniciens de cinéma comme Darius Kondji ou Dean Tavularis, tous deux reçus également dans Plan Large. Il était donc fatal qu'on vous rencontre enfin. Ces présentations faites, comment le producteur de long métrage que vous êtes s'est retrouvé à produire un court métrage? C'est dans un festival, je crois, alors pas à Clermont-Ferrand, que vous avez rencontré Mohamed Al-Mouhani, David Frenkel.
Oui, bah c'est un accident. C'est un accident,
disons, un heureux accident.
Et je suis un des heureux producteurs, mais je n'avais pas du tout l'intention de faire de nouveaux courts-métrages. Ça faisait 10 ans que j'en avais pas fait. Philippe Bachmann à Warren Screen me dit: est-ce que tu veux être membre d'un jury, d'un atelier de scénario?
Le festival de Chalon en Champagne.
Warren Screen, qui porte bien son nom. Je lis ce scénario, je tombe tout de suite amoureux du film. Avant même de l'avoir lu, je crois que c'est le titre qui m'a le plus touché. Je trouvais que dans Une Orange de Jaffa, il y avait quelque chose de l'ordre de la poésie. Il y avait, voilà, il y avait de la douceur dans une région qui en manque énormément. Et après, à la lecture, j'ai trouvé que Mohamed arrivait de manière très intelligente à la fois raconter le quotidien des Palestiniens, des habitants de Cisjordanie, à dénoncer l'occupation, mais de façon absolument pas manichéenne, avec une certaine, une vraie nuance, et que finalement ce film disait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est pour ça que j'ai dit à Philippe, non seulement j'ai envie de le soutenir, mais je vais le coproduire, parce que j'imagine qu'ils vont avoir besoin de moyens, que tout le monde est un peu coincé dans cette région du monde, et que le chauffeur de taxi, comme le jeune, mais aussi les soldats qui sont tankés dans ce checkpoint, et qui se trouvent dépassés par les dieux qui décident, à savoir les gouvernants, et que finalement ces gens-là avaient peut-être beaucoup plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Il y a notamment, enfin, ce rapport
ils
à la mère.
Ils sont des mères, hein, voilà.
M-E-R-E, voilà, on a tous une maman. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a dit où je me suis allé. Ça fait 10 ans que t'en as pas fait, mais celui-là, tu peux pas le refuser, quoi.
Alors vous connaissez bien l'autre côté du mur, si j'ose dire. Vous avez tourné notamment en Israël avec Claude Lanzmann.
Oui,
le film a été tourné en Palestine, ce qui n'avait rien d'évident, parce que souvent quand on voit des films censés se passer en Palestine, ça a été tourné en Jordanie, au Maroc, en Grèce. Oui. Pourquoi est-ce qu'il fallait tourner là-bas?
Pour moi, c'était de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est à un moment posé la question, et puis j'avais envie. Enfin, donc moi, ça a été vraiment une expérience de producteur très très forte, très importante, mais aussi une expérience humaine. Et j'avais envie, comme vous disiez, voilà, de passer de l'autre côté du mur, de donner la parole, d'accompagner la parole de l'autre. Et puis parce que l'autre, c'est aussi moi, c'est aussi nous. Donc tout ça, c'était très important. Je me voyais pas le faire en Grèce ou au Portugal. Après, la réelle politique nous a rattrapés. C'est-à-dire que moi, j'avais envie quand même de faire aussi un film avec des équipes palestiniennes, israéliennes et européennes, parce qu'on est en coproduction avec la Pologne. Et puis les soldats étant israéliens, il fallait trouver des Israéliens. Bon, ça a été un peu plus compliqué une fois qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on se rend compte que on pourra pas, pour des raisons diverses et variées, tourner avec des Israéliens, les faire venir là-bas. Je pense que Mohamed avait peur aussi des répercussions pour lui-même. Et donc, on a fait venir quand même des Israéliens. Sa mère, Bicharat, qui joue le rôle de Mohamed, habite Nazareth. Donc, c'est un Israélien, mais c'est un Arabe israélien. Donc, ça pouvait passer. À un moment, il a évoqué l'idée qu'on demande l'autorisation au mouvement BDS, qui pour moi était totalement hors de question. Et voilà, ce qui avait pu se faire il y a 10 ans, c'est-à-dire que j'avais été en contact d'ailleurs avec Yael Perloff, qui avait été une des assistantes monteuses de Lanzmann, sur Shoah et qui avait fait une dizaine de courts-métrages avec un homologue palestinien sur le thème de l'eau. Voilà, ce qui pouvait se faire il y a 10 ans ne pouvait plus se faire. Donc on a jonglé, et un des soldats d'ailleurs qu'on voit dans le film, c'est un arabe israélien, mais qui avait travaillé dans un checkpoint, et qui donc non seulement avait un accent impeccable, et en plus il savait exactement comment ça se passait, quelles étaient les phrases des soldats, etc. C'est une sacrée aventure quand même.
Alors il va sans dire que vous n'avez pas tourné dans un vrai checkpoint. Comment est-ce qu'on construit un checkpoint sur le territoire palestinien?
Ben ça, c'était assez. Ça a amené quand même des moments assez cocasses. On l'a tourné à Rawabi, le film, c'est-à-dire le checkpoint a été fabriqué là-bas. Rawabi, c'est une ville qui se trouve à 9 km au nord de Ramallah, qui est contrôlée par l'autorité palestinienne. Et donc, on a eu l'autorisation de fabriquer ce checkpoint qu'on a vraiment fabriqué sur une route déserte. Donc, vous imaginez bien que quand les voitures s'égaraient et arrivaient devant ce checkpoint avec des drapeaux israéliens, bon bah ça provoquait des situations. Et donc voilà, mais non, ça a été heureusement on a eu le soutien et d'Arte, et donc je remercie Hélène Vessière et du CNC, parce que ça a été quand même un gros budget pour un court-métrage, mais avec une équipe d'éco palestinienne assez géniale, on a pu faire ce checkpoint plus vrai que nature.
Alors, c'est un film qui, dans le contexte actuel, évidemment, parle autrement que quand vous l'avez tourné. C'est un film que vous essayez de montrer d'un côté ou de l'autre, justement, pour montrer que quand même quelque chose est possible.
Alors, ironie de l'histoire, la première du film a eu lieu le 7 octobre 2023 à Warren Screen, à Châlons-en-Champagne. J'y étais pas, et quelque part heureusement, parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu dire, parce qu'à la fois effectivement c'est un film qui est totalement dans l'actualité et qui peut paraître presque anachronique par rapport à ce qui s'est passé. Vous parliez de Lanzmann, c'est un film aussi qui a donc été montré 50 ans jour pour jour après le premier film de Claude Lanzmann, Pourquoi Israël ? Qui est sans point d'interrogation, je le précise, qui lui avait été montré le 7 octobre 1973, au lendemain de la guerre de Kippour, au New York Film Festival. Donc voilà, c'est assez étrange. C'est un film que je veux montrer partout, et notamment en Israël, évidemment, à Gaza quand ce sera possible, j'espère, le plus tôt possible, et en Cisjordanie.
Merci beaucoup David Frenkel. On peut voir Une Orange de Jaffa dans le programme I3 du Festival de Courts-Métrages de Clermont-Ferrand, mais aussi, pour ceux qui ne sont pas à Clermont-Ferrand, ce soir c'est à 15h15 sur Arte, dans l'émission Court-Circuit et en replay sur arte.tv. Le Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand se poursuit jusqu'au 10 février. Pour les Parisiens, reprise du palmarès le 3 mars au Forum des Images. On souhaite à tous nos invités d'en être. En attendant du Festival de Clermont, vous aurez d'autres images sonores dans le Grand Tour de Marie Sorbier les 5 et 6 février à 19h50 sur France Culture. Vous écoutez précisément France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec pour commencer quelques sorties et ressorties de ce mercredi.
صدق انه لنا احنا 3 شهور ما نستلمش عاد نحن في بنحنا الخير اصحاب الداخليه 6 شهور وقابوا لهم حق شهر
Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc il faut qu'on soit responsable vis-à-vis de nos actes.
Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Oui, tu as rien dit, ne?
Yeah.
Daisuke, j'ai rien dit.
So, comment est-ce Paranesco.
Attenzione, attenzione. La Stella Film bandisce un grande concorso. Cerca una bambina dai 6 agli 8 anni.
On est dans un petit village de Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
Je sais qui vous êtes.
Ils savent qui je suis.
Vous cherchez quoi?
Mon mari.
La télé va annoncer la découverte de mon corps.
Ça va créer un scoop monstre. Je vais enfin vendre tous mes films. J'ai 30 films sur 33 qui ne sont pas encore passés à Arte.
La mort, c'est le meilleur remède.
Who is this pianist?
One of the top figures of samba jazz during the bossa nova years.
Vos écrans depuis ce mercredi, des images inédites d'un pays sans cinéma sur le parcours impossible d'une femme qui cherche à se faire avorter dans un pays qui l'interdit et de son mari journaliste de la télévision publique au chômage. C'est Les Lueurs d'Aden de Amer Gamal, beau et premier film yéménite à avoir jamais été distribué en France. Autre portrait d'un pays, le Cameroun, via celui d'une couturière et mère célibataire de Douala, c'est le trait dardénien Mambar Pierrette, premier long métrage de fiction de la documentariste installée en Belgique Rosine Bakam, dont sort également le film précédent, Les prières de Delphine. L'usine génocidaire d'Auschwitz évoquée par la vie quotidienne de la famille du commandant du camp de l'autre côté du mur, c'est bien sûr La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, grand prix du jury du dernier festival de Cannes qui étouffe un rien dans les limites de son très visible dispositif, dispositif qui fait la synthèse entre les positions de Claude Lanzmann, on en parlait, et de Georges Didi Huberman pour dépasser la fameuse querelle des images d'il y a 20-30 ans. Une femme qui, à la mort de son mari, découvre qu'il n'était pas du tout celui qu'elle croyait, c'est sous le signe de Magritte, le thriller existentiel A Man de Kei Ishikawa, un film multiprimé aux équivalents japonais des Oscars et autres Césars. Un magnifique portrait de la volcanique Anna Magnani en mère prête à tout pour faire de sa fille une star de Cinecittà, c'est l'indispensable Bellissima de Luchino Visconti, ressorti dans une sublime copie restaurée dont Sandra Onana nous avait parlé la semaine dernière dans sa chronique. 50 ans de la vie d'une ferme savoyarde et de ceux qui l'exploitent, c'est la ferme des Bertrands, filmée en voisin par Gilles Perret, qui y retrouve les protagonistes de son film de 1997 Trois frères pour une vie. Retrouvailles encore avec le petit théâtre burlesque et Coris Maquien de Dominique Abel et Fiona Gordon, c'est le très mélancolique et un rien essoufflé, L'étoile filante. Toujours détonnant et imparable, lui, le cinéma tout aussi burlesque de l'apôtre de la politique des auteurs avec un H, Luc Moulet, revient en salle en majesté avec 10 courts et 11 longs, dont la merveilleuse aventure de Billy le Kid, western sans cheval mais avec Jean-Pierre Léo. Luc Moulet en personne présentera ses films ces jours-ci dans de nombreuses salles. Retrouvaille encore avec le cinéma tout en fanfare et en excès d'Emir Kusturica avec la ressortie de sa Palme d'Or de 1995 Underground en deux versions, celle de 2h44 et celle XXL de 5h16. Et puis enfin, une enquête documentaire et sonore sur la disparition en Argentine d'un génial pianiste du jazz bossa nova brésilien Francisco Tenorio Jr. C'est lui qui joue en ce moment, transformé en fiction animée. C'est le très beau They Shot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Quelques annonces encore. La Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes, vous fait gagner à présent, chaque premier samedi du mois dans Plan Large, un abonnement d'un an, oui d'un an, pour découvrir ses films. Ce mois-ci, à partir du 15 février, c'est Sophie Le Tourneur qui partage la liste de ses films préférés. On retrouve aussi une belle programmation de Kevin Donna, l'auteur du Paris Noir à l'occasion du mois de l'histoire noire, et la très rare première comédie américaine d'Ernst Lubitsch, comédienne, sortie il y a tout juste 100 ans aujourd'hui. C'était le 3 février 1924. Pour gagner cet abonnement d'un an à la Cinéthèque, vous répondez comme toujours à la question du mois sur la page Plan Large du site de France Culture. Deux annonces encore pour vous dire que la cinéaste Ozan Palsy, dont la rétrospective au Centre Pompidou avait été largement obérée par la grève, il sera de retour au Centre Pompidou le week-end prochain pour y présenter ses films, dont les célèbres Rue Cazenègre et Une saison blanche et sèche. Et puis, cette nuit, sur France Culture, c'est un festival d'archives quand Chaplin devient Charlot pour saluer l'apparition un jour de février 1914 du petit homme à moustache. Ceci annoncé, c'est le moment de se détendre sur un air de musique et au milieu de ses jouets préférés. Quoi de plus agréable que de se préparer une petite tartine de caviar en écoutant un air de Cole Porter dans un manoir anglais au milieu de ses automates favoris, surtout quand on vient de se débarrasser de l'amant de sa femme. C'est un intermède dans l'affrontement psychologique retors et riche de rebondissements qu'est Le Limier, le dernier film et chef-d'œuvre de Joseph L. Mankiewicz en 1972, un film longtemps invisible et dont on se réjouit donc absolument du retour en salle en version restaurée. Comment parler de ce film sans en dire trop pour ne pas divulgâcher le plaisir des spectateurs et spectatrices qui le découvriront pour la première fois? Eh bien, c'est le défi que vous allez relever, NTBIN. On peut dire déjà que s'y rencontrent au sommet deux génies du jeu à l'anglaise, deux générations, deux styles et deux classes sociales, Laurence Olivier et Michael Caine, NTBIN.
Oui, Joseph Mankiewicz disait, lui qui a dirigé toutes les plus grandes stars de Hollywood, il disait, voilà, si j'ai besoin de champions de natation, je vais choisir des Américains, mais si j'ai de bons acteurs, je vais choisir des Britanniques. Et alors, c'est intéressant parce que on essaye de parler de ce film sans divulgâcher, et heureusement que nous sommes à la radio, et que nous n'avons pas vu les images qui accompagnent la bande-son que nous venons d'entendre, parce que, en plus... cet extrait sonore nous disons démontre à quel point Mankiewicz est un metteur en scène de l'image, de la du récit, mais aussi du son. C'est-à-dire que il y a plein d'indices de bruits parasites, de différences de niveau de sonore dans cette séquence que vous avez entendue. Il y a la chanson de Cole Porter, You Do Something to Me, par une voix très suave de crooner d'une autre époque. Qui nous signifie bien que Laurence Olivier, le personnage qu'il joue, qui est un auteur de romans policiers, il vit dans le passé, dans un passé révolu. Il joue le rôle de l'aristocrate qui va peut-être être supplanté par le roturier. Ça, c'est un thème qu'on retrouve souvent chez Mankiewicz, qu'on retrouve par exemple dans Un Américain bien tranquille, l'un de ses films peut-être les plus méconnus, mais dans son film juste précédent, qui était Guépier pour trois abeilles, et qui, d'une certaine manière, qu'on trouve même dans un film, une commande, comme Cléopâtre, c'est-à-dire un affrontement entre deux générations et deux pouvoirs différents. Alors, il y a autre chose qui est intéressant aussi chez lui, chez Mankiewicz, c'est l'importance du hors-champ, de l'invisibilité. Il y a dans ce film une Arlésienne, comme il y en a souvent chez Mankiewicz, comme le cousin Sébastien dans Soudain l'été dernier, comme Addy Ross, qui est partie avec l'une des trois héroïnes, avec le mari de l'une des trois héroïnes de Chaîne conjugale. Ici, vous avez une femme dont le portrait trône dans l'immense séjour de ce manoir. L'auteur de romans policiers, joué par Laurence Olivier, voit arriver l'amant de sa femme. Vous avez quand même un peu divulgaché, ce qui est dommage, mais peu importe, parce qu'il s'agit avant tout d'une sorte de jeu de machination criminelle tel que Mankiewicz aime bien parsemer ces récits. Et en même temps, c'est un film... Alors, on dit facilement a posteriori, parce que c'est son dernier long-métrage, mais c'est un peu un film somme. C'est-à-dire que le thème principal de tous les films de Mankiewicz, c'est comment la vie bouscule les scénarios, à savoir, tous les matins, on se réveille avec notre petit scénario pour la journée, et les éléments extérieurs et les aléas de la vie vont s'employer à détourner, à contrer, voire à contredire ce petit scénario. Eh bien, cela sous la forme d'un jeu. Et Mankiewicz, c'est un cinéaste ludique par excellence. Il a dit lui-même qu'il avait fait une psychanalyse pour la seule raison qu'il était addict au jeu. Eh bien, voilà, vous avez ce huis clos à plusieurs personnages qui est un affrontement successif de plusieurs duels, on va dire, et qui, pour Mankiewicz, est une sorte de thérapie après le traumatisme de la superproduction Cléopâtre.
Merci Ntebin, Le Limier de Joseph L. Mankiewicz. C'est à voir en salle en version restaurée. Il est aussi édité en Blu-ray par Colored Film et ESC Distribution. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à France Bleu Pays d'Auvergne de nous avoir accueillis. À la prise de son, Antoine Bidet à Clermont-Ferrand et Ludovic Auger à Paris. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.